Sud Radio, il est 2h. Sud Radio. Parlons vrai.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Maxime Trollo est avec nous, évidemment.
Bonjour
Maxime. Et vous êtes là, 0826-300-300. Vous êtes là pour réagir, pour intervenir sur tous les sujets d'actualité, évidemment. Vous avez écouté Léon Desfontaines, peut-être, il n'a pas mâché ses mots. Ce matin, le candidat communiste aux européennes, à tête de liste communiste aux européennes, tout le monde en a pris pour son grade, hein, Maxime.
Oui, absolument, il n'a pas mâché ses mots, comme vous dites.
Oui, vous dites... Zemmour est une racaille. Qu'est-ce qu'il a dit? Macron et Glucksmann sont les mêmes. LFI menace la laïcité. Enfin bon, il y est allé et il n'y est pas allé de main morte. Vous voulez réagir? 0826-300-300. Bien. Parlons de la surpopulation carcérale.
Oui. Jamais, Jean-Jacques, il n'y a eu autant de détenus en France. C'est ce chiffre qui est sorti du ministère de la Justice hier. 77 450 personnes incarcérées, c'est plus de 6% en un an. Hein. Ça fait 4 370 de plus que 2022. La densité carcérale s'établit à 125%. Il y a même ce chiffre qui atteint les 200% de surpopulation carcérale. Rendez-vous compte, dans 17 établissements ou quartiers, comme à Tours, par exemple.
Bien, nous allons parler, évidemment, des Jeux Olympiques et des préavis de grève. Oui. Notamment chez les éboueurs, dans un instant, mais tout de suite, sur la surpopulation carcérale, je voudrais que nous prenions Frédéric, qui est à Carcassonne, ancien directeur de prison. Bonjour Frédéric.
Et bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous vos auditeurs.
Merci d'être avec nous. Vous connaissez bien le sujet, évidemment, vous avez dirigé une prison. Alors, je regardais, la surpopulation est surtout très très forte dans les maisons d'arrêt. Les maisons d'arrêt, ce sont les lieux où les détenus sont en attente de jugement. Enfin, ils ne sont pas condamnés encore.
Alors exactement, le ministère joue avec les chiffres. Il annonce 125% de taux d'occupation.
Oui.
Mais c'est 125 sur tout l'ensemble des établissements,
exact.
L'ensemble du nombre de places.
Exact.
Alors qu'il n'y a que les maisons d'arrêt qui sont sur encombrement, puisque tous les établissements pour peine, que ce soit maison centrale ou centre de détention, ont un numerus clausus. Donc beaucoup d'établissements sont à 150-200% de taux d'occupation.
Oui. Parfois plus vraiment... des 200% à Tours, notamment, je crois.
Oui, bon, Nice, Tours, Valenciennes, enfin voilà, il y a dans tous les endroits de France, les maisons d'arrêt sont surencombrées.
Oui.
Le gouvernement joue avec les chiffres. Déjà, les présidents, pendant leur campagne, annoncent des 10 000 places, 15 000 places qu'ils
vont
construire.
Tout le monde, j'ai toujours entendu ça.
Rien ne se fait.
Oui.
La plus grande, je dirais, fumisterie, c'est quand je vois le ministre de la Justice qui inaugure un établissement le 23 octobre de l'année dernière, à Fleury-Mérogis, alors que c'est un établissement qui existait déjà dans les années 60, qui a simplement été fermé quelques années pour rénovation. Donc ça ne sont pas de la création de place. Et là, franchement, il prend les gens pour des imbéciles.
Bien, le problème en France, c'est que personne ne veut de prison sur son territoire, en plus.
Mais alors, le problème, pourquoi? Parce que le gouvernement, d'un coup, annonce voilà, vous habitez à l'endroit, on va mettre une prison sur votre terrain, dans votre commune, sans prévenir, sans aucune pédagogie.
Oui.
Peut-être qu'il faut, commencer par faire de la pédagogie, expliquer une prison, c'est pas forcément que des nuisances. Hein. Une prison, ça peut
beaucoup
ça aussi...
Ben oui, vous avez raison, mais beaucoup
emplois.
De riverains le pensent.
Ben c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie.
Mmh.
Quand vous avez un établissement comme à Vendin-le-Vieil, qui se trouve près de Lens dans le Nord, qui est un établissement dans une zone commerciale, zone industrielle, il n'y a pas de riverains proches, ce ne sont que des magasins qui sont fermés la nuit, les week-ends, ça ne dérange personne, il n'y a pas de nuisance à ce moment-là.
Oui, je comprends.
Il faut faire de la pédagogie, il faut trouver des terrains qui ne soient pas proches des habitations. Et après, beaucoup de riverains s'en plaignent, comme j'ai connu à Amiens, mais ils ont construit leur maison derrière la prison alors qu'elle existait déjà. Mais quelques années après, ils disent qu'il y a des nuisances. Eh ben, évidemment, mais vous le saviez avant d'acheter.
Oui, ben ça c'est un grand classique.
C'est quand même un vrai problème le surencombrement, parce que quand vous avez un surveillant pour 50 détenus, normalement, avec 8 douches dans la coursive, il doit distribuer, sortir les promenades, les parloirs, etc., pour toutes les activités qui existent. récidivistes en prison, il y en a quand même beaucoup. Quand il se retrouve avec 100 détenus, il a toujours que 8 douches pour passer 100 détenus. Donc là, il leur dit, allez hop, 10 minutes, au revoir, terminez la douche, etc. Et là, ça crée des conflits. Ça crée des conflits entre détenus, ça crée des conflits avec le personnel. Et c'est une vraie difficulté. Et évidemment. Après, on dit qu'il y a de la violence, il y a de contrôle, il y a des téléphones partout, etc. Mais bien sûr, on n'a plus le temps. Quand on a doublé la population, on n'a pas le temps de s'en occuper correctement.
Mais évidemment. Et évidemment, les prisonniers en souffrent, mais les surveillants pénitentiaires aussi. Bien, merci beaucoup Frédéric. Merci d'être intervenu. Il est quelle heure? Il est 9h09. Donc parlons de ces grèves. Grèves, ces préavis de grève. Les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon et évidemment, beaucoup saisissent l'aubaine. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui. Nous verrons ce que diront les manifestants et les manifestations aujourd'hui en France, un peu partout. Mais c'est une aubaine pour beaucoup.
Oui, et peut-être pour les éboueurs, en tout cas ceux de la ville de Paris, Jean-Jacques, qui menacent de faire grève donc pour les Jeux Olympiques. Ils ont déposé 2 préavis pour ce mois de mai à partir du 14, et donc une période qui couvre l'intégralité des Jeux Olympiques en juillet jusqu'en septembre. Ils demandent une prime de 1 900 €. Ils estiment qu'ils auront plus de travail. Ils réclament également 400 € par mois pour tous, toute l'année.
400 € de prime ?
Non, 400 € de salaire et 1 900 € de prime.
Immédiatement en plus.
Absolument.
Bien. Ludovic est éboueur à Paris. Bonjour Ludovic.
Bonjour Monsieur Bourdin, je suis ravi d'être avec vous.
Bah moi aussi Ludovic, je suis ravi. On se connaît hein Ludovic.
Un petit peu on se connaît, mais moi je vous connais plus que vous me connaissez.
Ah bon, d'accord, bon. Oui, non mais, oui c'est possible, ça c'est possible Ludovic. Ludovic, disons clairement, parce que moi j'aime bien que les choses soient dites, les Jeux Olympiques c'est une aubaine.
Ben, complètement. Mais il faut savoir que, toutes ces grèves qui sont annoncées, etc., le problème, il est tout le temps, en fait.
Oui.
Et on est en manque de... Moi, je prends l'exemple pour moi, par exemple.
Oui.
Moi, je parle de mon salaire. Moi, quand je suis arrivé à la ville de Paris, j'ai gagné 1 543 € net avec les primes. Ça fait 7 ans que j'y suis. Maintenant, je suis à 1 843 € net, mais avec les primes. On enlève les primes, il n'y a plus rien. Vous voyez ? Donc, on est mal payé, bien évidemment. Donc, oui, il faut profiter de ces événements pour pouvoir revendiquer la hausse des salaires, etc.
Mais je suis étonné, Ludovic, parce que j'entends des chiffres sur les éboueurs. J'entends dire, c'est comme une légende. Les éboueurs, notamment à Paris, sont très bien payés. Mais c'est pas la réalité, alors.
Non, vraiment pas. Vraiment pas.
Vous avez entendu ça aussi.
Bien évidemment. Moi, je l'entends sur les réseaux. Je me fais même un petit peu insulter sur les réseaux sociaux. Mais c'est faux, c'est archi faux. Moi, je peux montrer ma fiche de paye. Il n'y a aucun problème. Je ne dois rien à personne. Et vous verrez qu'on est vraiment très mal payé. Et puis, la vie, elle n'arrête pas d'augmenter tout le temps. Nos salaires, que dalle.
Oui.
Voilà.
Donc là, vous êtes prêt vraiment à vous mettre en grève et vous demandez 1 900 € une prime, ça, une prime Jeux Olympiques, mais vous demandez surtout 400 € de plus par mois. Pour tous.
Exactement. Mais alors attention, moi je ne suis pas dans un syndicat. Par contre, bien évidemment, je soutiens tous ces mouvements parce que c'est hyper important pour l'avenir. Ça ne peut pas durer en fait. Les JO, on met la pression.
Ben oui, j'ai bien compris. Donc vous êtes prêt à vous mettre en grève, vous, Ludovic ?
Oui, mais pas toujours, quand même. Parce parce qu'il faut que je puisse payer mon loyer quand même, à un moment donné.
Oui.
Il n'y a personne qui va te payer à ma place.
Oui, ça c'est... Non, mais ça c'est... Si vous trouvez quelqu'un qui paye votre loyer à votre place, vous nous dites.
Pas de problème, là je fais grève tous les jours.
Bon, Ludovic, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Je vous garde encore un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que les Jeux Olympiques vont vous donner plus de travail?
Ah oui, complètement. Vraiment. Mais alors attention, parce que je vais prendre l'exemple du marathon qu'il y a eu dans Paris, par exemple.
Oui,
vous savez, ils ont mis des bacs de 600 litres tout le long du parcours. C'est pas pour autant que les marathoniens ou que les gens, ils ont utilisé les bacs. Il faut aussi utiliser les moyens qu'on leur donne à un moment donné. Il faut être aussi responsable. On peut pas mettre un éboueur dans chaque rue, à chaque poubelle. C'est pas possible, ça.
Non, mais ça je suis d'accord. Il faut que et les spectateurs et les concurrents soient responsables.
Exactement. Mais c'est le minimum, au moins.
C'est le minimum de jeter sa bouteille dans un bac.
Exactement, et dans le bon bac, s'il
vous plaît. Et dans le bon bac. Mais, oui, vous avez raison, dans le bon bac. Bon, ben merci beaucoup, Ludovic. Merci.
Je suis ravi, monsieur Bourdin. Vraiment.
Moi aussi, ravi d'être avec vous. Vraiment, franchement, et je salue tous les éboueurs. Je sais que moi, quand j'étais sur RMC, j'avais très nombreux éboueurs qui m'écoutaient, qui étaient là avec nous. Et je sais que certains sont venus. Alors, merci à vous tous. Et sans vous, cette ville de Paris, ben, y a pas qu'à Paris, hein. Dans toutes les villes, c'est pareil. Mais cette ville de Paris, qu'on aime tant, parce que c'est la plus belle ville du monde, qui est parfois qualifiée de sale. Est-ce que vous la trouvez sale, Ludovic?
Alors non, alors excusez-moi, moi je suis un amoureux, un fan amoureux de Paris.
Oui.
C'est magnifique Paris. Paris est propre. Je peux vous garantir que Paris est propre. C'est les gens qui sont dégueulasses. Moi j'ai fait Paris-Marseille pendant 55 jours et je peux vous garantir qu'il y a bien plus dégueulasse que Paris-Marseille, etc. Il y a bien plus dégueulasse. Je suis désolé de le dire, mais arrêtez de jeter par terre, tout simplement.
Oui, ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est pas compliqué de jeter un papier ou une bouteille dans un bac. Il y a des poubelles partout.
Partout, 33 000 sur Paris, et tous les 50 mètres en moyenne, hein. Tous les 50 mètres. Et même les cendriers, hein, c'est pareil. On dit qu'il n'y a pas de cendrier nulle part, c'est faux, parce qu'il y a 33 000 poubelles, une poubelle est... un cendrier, il y a juste à écraser sa cigarette bien comme il faut, parce qu'il y en a qui l'écrasent mal et bien évidemment les poubelles elles crament, et là on appelle les pompiers ils ont autre chose à faire qu'aller éteindre des feux de poubelles. Je suis désolé, donc voilà, donc faut arrêter de dire n'importe quoi, s'il vous plaît, soyons encore une fois responsables.
Ouais, ça me fait plaisir d'entendre ce mot, dites-moi Ludovic, ça me fait plaisir, parce que si il y a un mot qui est un peu oublié dans notre société aujourd'hui, c'est le mot responsabilité, hein.
Exactement, tout à fait. Ah, l'incivilité, c'est nous qui en sommes les capteurs, hein, l'incivilité. Bah, c'est nous, c'est pas les animaux, hein. Les animaux sont beaucoup, beaucoup plus propres que nous.
Ouais. Merci beaucoup, Ludovic. Allez, je le laisse cette fois. Allez, bonne journée, bon 1er mai. Il est 9h15, vous êtes sur Sud Radio. Vous intervenez si vous le souhaitez. 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio Sarlat.
107.1.
Sud Radio.
Fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall. To the sky, do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. There's always times like these when I think of you and I wonder if you ever think of me. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way.
could fall into the sky. Do you think time would pass us by?
Le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verissure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Il est 9h18, merci d'être avec nous. Qu'allons-nous faire entre 9h30 et 10h, Maxime? Quel débat allons-nous ouvrir?
On va parler des écrans, Jean-Jacques, puisqu'un rapport a été remis hier au gouvernement, notamment expliquant qu'il faut interdire les écrans au moins de 3 ans ou les téléphones portables au moins de 11 ans. Alors, est-ce que l'interdiction est-elle la solution? On en parlera avec vos deux invités. Nawal Aboub, docteur en sciences cognitives, spécialiste du développement du cerveau et de son apprentissage, et le docteur Sylvie Vidio Ozika, pédiatre, membre du collectif Surexposition Écran.
Et qui publie un livre, qui a pour titre, vous avez
les
tout ça.
Les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée. C'est aux éditions Attier.
10 clés, je note tout ça parce que je ne l'avais pas. 10 clés pour les utiliser en famille.
C'est ça, et de manière raisonnée.
Et c'est pas mal ça, parce que c'est un vrai problème, Un vrai problème pour toutes les familles, d'ailleurs, 0826-300-300, de manière raisonnée. Oui, de manière raisonnée. Que proposent ces experts? Ils proposent, comme vous l'avez dit, pas d'écran avant 3 ans, ça me paraît logique. Pas de portable jusqu'à 11 ans. Avant 11 ans. Un téléphone sans Internet jusqu'à 13 ans. Et aussi, un smartphone sans accès aux réseaux sociaux après 13 ans, puis ouverture de l'accès aux réseaux sociaux à partir de 15 ans. Voilà ce que recommandent des experts. Nous verrons ce qu'ils nous allons débattre. Ce sont des recommandations strictes. C'est de la responsabilité des parents aussi. Est-ce qu'on arrive, à être aussi... je dirais pas coercitif, mais un peu directif avec nos enfants. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Il est 9h20. Allez, 9h20, nous allons parler d'autre chose aussi. Maintenant, nous allons parler de quoi, Maxime?
De football, plus exactement de cette lettre de la Fédération Française de Football qui a rappelé au président de Ligue et District qu'il devait interdire les collants et les casques pour les femmes, je cite, car elle craint que cela devienne des signes ostensibles, visibles d'appartenance, en clair, des signes liés à l'islam rigoriste.
Alors, interdiction des collants, pour les hommes et les femmes,
absolument,
les deux. Et de tout ce qui couvre la tête, quoi.
Oui, et les casques, notamment,
pour les hommes et les femmes.
Pour ce qui est question du voile, il y a des femmes qui jouent au foot avec leur voile et qui mettent un casque pour que le voile tienne sur leur tête.
Bon, nous allons prendre Hakim et Ludovic pour voir quelles sont les réactions. Hakim, qui est à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, qui est professeur au lycée technique, qu'on a eu déjà plusieurs fois. Et je remercie Hakim d'être avec nous ce matin.
Avec plaisir.
C'est un plaisir. Ça va, ce 1er mai, vous êtes au repos, là?
Oui, on est au repos, oui. Il pleut un petit peu aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne, mais comme beaucoup... D'ailleurs, tout l'hiver et le printemps, la pluie est beaucoup tombée.
Tant mieux, des régions, il faut qu'il pleuve encore et encore. Allez,
bien sûr.
Même si ça nous fait râler, il faut qu'il pleuve, on a besoin d'eau.
Au contraire.
Mais évidemment.
Bien sûr. Et surtout que nous, on est une région agricole.
Évidemment. Hakim, que pensez-vous de ces décisions de la Fédération Française de Football?
Oui, dans un premier temps, j'ai été un petit peu surpris, parce que c'est vrai que des collants, enfin, on a un casque, on se dit, tiens, c'est bizarre. Mais je pense qu'ils n'ont pas pris cette décision comme ça au hasard. Je pense qu'ils ont ont eu beaucoup de retours, et ils ont dû s'apercevoir que c'était une tendance. Peut-être qu'il commence à s'amplifier. Et c'est vrai qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une vision de la religion aujourd'hui un petit peu intégriste, qui de façon très subreptice est en train de s'introduire dans la vie ordinaire, banale des gens. Et donc je pense que tout simplement la FFF, elle a répondu, elle a répliqué du tac au tac à, si vous voulez, cette tendance qui commence à prendre de l'ampleur. Donc ça peut être étonnant dans un premier temps parce qu'on n'y pense pas vraiment. Mais je pense que, quelque part, c'est aussi protéger et les filles et les garçons. Alors, c'est sûr que quand il va faire froid, quand il fait froid, on peut autoriser les collants. Mais quand les températures sont clémentes, c'est un petit peu bizarre.
Donc, vrai que c'est un peu bizarre. De jouer au football en collant quand il fait 30 degrés, c'est un peu bizarre. Hein.
Et je voudrais dire, là, vous savez, il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine en Afrique.
Oui.
C'est terminé, là, il y a quelques semaines.
Oui.
On a vu les équipes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, Mali, Sénégal. Il n'y a pas de collants, il n'y a pas de voile.
Non.
Elles sont toutes habillées comme à l'européenne, comme en Europe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on veut absolument que les petites filles françaises se couvrent?
Qu'est-ce qu'on est en train de leur mettre? Il n'y a qu'en Iran. Il n'y a qu'en Iran.
Voilà, il n'y a qu'en Iran. Donc c'est
quand même rigoriste.
Voilà, et je pense que ça s'introduit tout doucement, en douce, de manière très 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 maligne, et je pense que tout simplement la fédération n'a pas eu froid aux yeux, et elle a répondu du tac au tac. Je voudrais juste dire une dernière chose, si vous me permettez.
Oui.
On va avoir les Jeux Olympiques, là, vous étiez en train d'en parler.
Oui.
Il y a toutes ces petites filles, là, qui vont regarder toutes ces grandes sportives venir du monde entier chez nous. Et c'est une bonne nouvelle, qu'on accueille les Jeux Olympiques.
Mais oui,
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent.
Mais
faut arrêter
avec ça.
Voilà.
C'est une bonne nouvelle. C'est formidable. C'est la fête. C'est la fête du sport. C'est formidable. Il faut arrêter de penser que tout le monde est dopé, que tout le monde est que tout est trafiqué, que tout est.
Voilà. J'arrête pas d'entendre des critiques. C'est comme la Coupe du Monde au Qatar, ça devait être l'enfer. Ça s'est bien passé et ça va bien se passer cet été. Il y a des vocations qui vont naître. Toutes ces petites filles qui vont regarder ces grandes sportives, soit à la perche, soit en longueur, la natation. On va leur dire non, tu pourras pas, parce que on voit ton corps. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors je dis tout simplement deux choses. Et j'ai fini. Première des choses, vous savez, en 84, Nawal El Moutawakil, championne olympique à Los Angeles, du 400 mètres. Elle était habillée tout à fait normalement comme une sportive doit s'habiller.
Oui.
En 92, Asiba Mumerka menacée de mort parce qu'elle a couru en short, on voyait ses cannes, on voyait ses jambes.
Oui.
Et ça a été la fierté de tout un peuple. Je dis, il faut pas céder. Il n'y a pas à céder pour faire plaisir à je ne sais qui. Et on va encore dire islamophobie. Il faut arrêter avec ces intimidations. Il n'y a pas d'islamophobie. Ce n'est pas rendre service aux petites filles. C'est pas rendre service à tous ces enfants. Voilà.
Merci Hakim. Merci beaucoup Hakim. Merci. Ludovic est à Montpellier avec nous sur le même sujet. Ludovic, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes d'accord avec Hakim?
Ben, très sincèrement, j'adhère complètement au discours que vient de tenir Hakim.
Oui.
Et je pourrais pas dire mieux. Et vraiment, en plus, c'est un plaisir de discuter parce que petit, j'habitais à Villeneuve-sur-Lot. Ouais, c'est vrai, avec mes parents quand ils ont pas mal bougé. D'ailleurs, Jean-Jacques, j'étais lundi soir chez vous, au Stade des Antonneurs à Nîmes.
Ah bon?
Face au Red Star. Ben oui.
Tant mieux. vous êtes supporter de Nîmes Olympique, vous un Montpelliérain?
Non, mais c'est surtout que je fais partie d'une association qui s'appelle les Baroudeurs du Sport, où d'ailleurs on va se rendre en Allemagne pour l'Euro, et c'est ça qui est bien aussi, le partage, le voyage des copains, et je ne suis pas non plus obtus, même si je suis païadin, et j'aime beaucoup aller voir les stades et rencontrer les gens.
Et dites-moi, il paraît qu'il y avait une belle ambiance lundi soir.
Franchement, il y avait vraiment du monde, je pense que le Nîmes Olympique avait mis les places à 5 euros, et ça a aidé aussi.
C'est mon idée, c'est mon idée.
Et à sauver le club, parce que quand même c'est important pour les
gardiens. Je suis d'accord. Mais maintenant, il faut qu'on s'en sorte. Je pense qu'on est bien parti, mais ça va être difficile encore.
Je le souhaite. En tout cas, moi, je pense que la FFF, comme l'a dit Hakim, après, elle légifère et puis elle est obligée de prendre les devants, comme pour l'éducation nationale avec l'école. Moi, je le conseille volontiers. Je ne fréquente pas les clubs, notamment amateurs, où il pourrait y avoir ce genre de problématiques. Ce que je constate juste, c'est qu'il y a 10 ans, j'arbitrais au niveau régional et puis au niveau de la Ligue Occitanie, on n'avait pas ce genre de débat où on a jamais eu de remonter, de dire on a rencontré tel type de
Il y a 10 ans, vous ne voyiez pas cela.
Non, on était vraiment n'importe où, puisque nous, enfin, c'était même jusqu'au tip-top, vous savez, sur les chaussettes, qu'il fallait qu'ils soient de la même couleur, etc.
Oui,
on n'a
oui.
jamais eu de problème avec des collants ou avec des personnes qui avaient
qui se couvraient la tête.
Ou qui se couvraient, ouais, tout simplement. Mm. Et je pense que c'est assez récent. Et du coup, pour moi, l'école, c'est l'égalité des chances. Le sport, ça rassemble, et là, c'est pas un sujet, j'ai l'impression, sur lequel on se fait que des amis, et voilà, ça a plutôt tendance à nous diviser, donc c'est dommage, et je suis d'accord avec Hakim quand il dit que c'est un peu prendre les devants pour sécuriser, protéger un peu tout le monde, parce que moi, si je me souviens, après des matchs qu'on regarde sur les qualifs, oui, effectivement, au Liban, etc., ben, c'est mon seul souvenir où, là où j'ai pu voir des personnes, et notamment le foot féminin, des personnes voilées, ou couverte. Et c'est vrai que c'est pas une bonne image donnée. Là, vous parliez pareil des Jeux Olympiques sur des sportives quand ça a des retombées internationales et que des petites regardent.
Merci. Ludovic, merci pour vos propos et merci que nous partageons d'ailleurs. Il est 9h28, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Allez, nous allons parler des écrans avec les enfants. Les écrans, les enfants subissent l'hyperconnexion subie des enfants, c'est le sujet que nous allons développer dans un instant sur Antenne de Sud Radio. Et si vous voulez appeler, participez, 0826 300 300.
Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+.
Sud Radio.
Soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. Oh, à nos actes manqués. À tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, tout ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde à ses douleurs qui ne me touchent plus, aux notes au solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que l'autre en fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés.
Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Notre débat, 9h30-10h, avec question ce matin, la question du jour. Écran pour les enfants, l'interdiction est-elle la solution? Je rappelle que chacun cherche des solutions face à ce que l'on appelle l'hyperconnexion subie des enfants. Un rapport a été remis hier à Emmanuel Macron. Il préconise d'interdire l'usage des écrans et des téléphones portables aux plus jeunes et d'en limiter drastiquement l'accès aux adolescents. Dans ce rapport, une centaine de pages, la commission recommande, pour tenter de reprendre le contrôle, la commission recommande d'empêcher tout usage des écrans pour des enfants de moins de 3 ans, un accès fortement limité entre 3 et 6 ans avec des contenus de qualité éducative et accompagnés par un adulte. Pour les portables, la commission préconise son interdiction jusqu'à 11 ans, un téléphone sans internet jusqu'à 13 ans, donner un smartphone sans accès aux réseaux sociaux après 13 ans, puis ouvrir cet accès à partir de 15 ans uniquement sur des réseaux éthiques. Ben dites-moi, c'est strict? Qu'en pensent nos invités? Eh bien, nous allons savoir tout de suite avec nous Nawal Aboub, qui est docteur en sciences cognitives. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du développement du cerveau et apprentissage, auteur de La puissance des bébés chez Fayard. Et puis le docteur Sylvie Diozica. Bonjour.
Bonjour.
Pédiatre, membre du collectif Surexposition Écran, responsable de la consultation hospitalière pédiatrique Surexposition Écran à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, auteur de « Les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée » aux éditions Hatier. Bien, ces recommandations, que pensez-vous de ces recommandations, Nawal Aboub?
En tout cas, en ce qui concerne les tout-petits, c'est pas nouveau. L'interdiction au moins de 3 ans, c'était déjà en 2008 par l'ARCOM, l'ancien CSA. On n'a pas vraiment évolué sur cette question-là, donc on est resté similaire. Je pense que par contre, les mesures pour les plus grands sont beaucoup plus restrictives que ce que j'aurais imaginé. C'est sûr.
Trop restrictive?
Par rapport à d'autres pays, oui, elles le sont. Mais la France a toujours été très restrictive et justement très stricte, en fait, sur le rapport aux écrans. Nous, on est un pays où, justement, l'accès à ces technologies, on veut les restreindre le plus tôt possible.
Qu'en pensez-vous, docteur?
J'en pense du bien, parce que je suis enfin contente qu'on protège les enfants, les adolescents. Je rappelle que la pédiatrie, ça va de 0 à 16 ans. Donc je vois des grands comme des petits. Je suis ravie, évidemment, pour les moins de 3 ans, que les choses soient officialisées. Alors c'est vrai que ça a toujours été, mais c'est absolument pas respecté, parce que les gens ne sont pas suffisamment informés, suffisamment tôt. Moi, j'ai une consultation sur exposition écran où je vois des enfants de 3 ans et qui ne parlent pas,
des
et qui sont exposés
de
depuis l'âge de 6
que
mois,
les parents, par exemple. Que les parents vous amènent?
Parce qu'ils vont pas bien, parce qu'ils ne parlent pas et qui sont exposés depuis très longtemps aux écrans, et que souvent l'information malheureusement ne leur a pas été donnée, ou de façon assez claire, et qui ne savaient pas les enjeux, les risques qu'ils prenaient en utilisant les écrans. Et protéger les ados, c'est indispensable. On a enfin compris qu'il y avait un problème sous-jacent majeur, qui est celui de la captologie. Enfin, on distribue des objets pour capter notre attention. On est tous victimes, vous, moi, ainsi de suite.
Bien sûr,
d'accord ?
Bien sûr.
Eh bien, il n'y a aucune raison que les adolescents qui sont vulnérables par définition, simplement ados, enfants et bien sûr le tout petit, ne soient pas captés en permanence. On ne peut pas lâcher. C'est un peu caricatural, mais c'est donner une drogue à un enfant et on ne le protège pas.
Les emprisonner.
Mais on ne les protège pas. Donc là, moi, je suis ravie qu'il y ait un moment une protection. Et puis après, il faudra expliquer, ainsi de suite. Mais il y a besoin de protéger.
Alors, ce sont des recommandations, je le rappelle.
Absolument.
Nous allons voir ce que va en faire le gouvernement, ce que vont en faire les élus. Mais comment empêcher tout usage des écrans pour des enfants de moins de 3 ans? Moi, je me pose la question, comment fait-on?
C'est pour ça que, justement, cette question est très intéressante. Moi, je travaille dessus depuis plus de 10 ans, parce que le sujet des écrans, c'est un sujet central dans la parentalité, même dans notre société. Moi, j'ai toujours été partisane de « regardons les consensus scientifiques ». Qu'est-ce que la littérature scientifique nous dit sur ces sujets? Alors, c'est vrai que dès qu'on parle des enfants, des populations vulnérables, on a une alerte très très forte. Donc on se dit tous, est-ce que c'est un danger? Quand on regarde la littérature, on voit dès qu'il y a eu des avancées technologiques comme la radio, on a eu en 1940 des écrits d'une pédiatre qui disait les effets de la radio, ça allait même que l'effet de l'alcool sur les enfants. Et donc on a toujours eu peur, et c'est à raison en réalité. Or, il est vrai que la littérature scientifique nous dit aussi que les écrans pour les moins de 3 ans, dans certaines conditions, peuvent être bénéfiques. Alors encore une fois, tout excès est négatif. D'accord? On est, moi, ce que j'aime bien pouvoir.
Pas d'accord, je sens. Ça peut être bénéfique.
Ça peut être bénéfique dans certaines conditions. Par exemple, à 18 mois, on sait que les enfants sont réceptifs dans le chat vidéo. Quand on discute via des visios. Vous voyez, oui. Donc quand on a une famille où on est tous éloignés les uns des autres, c'est plutôt bien d'utiliser cet outil pour les enfants et de pouvoir discuter avec ses grands-parents qui sont peut-être voilà à des milliers de kilomètres de chez nous. Donc bien ça, c'est sûr, des outils, c'est par exemple, qu'on peut avoir. Ensuite, on a aussi d'autres effets sur le langage qui peuvent être aussi bénéfiques avec des petits touches bruns où il y a des histoires de morale où on peut discuter avec les enfants. Donc encore une fois, tout ça, c'est encadré, c'est un outil.
Oui, il faut comprendre les opportunités et les risques. À condition que le parent accompagne l'enfant.
Ce n'est pas la vraie vie. Alors déjà, on peut parler de PubMed, un public médicale, effectivement, il n'y a à ce jour aucune étude qui montre un bénéfice. Elles sont toutes pour les moins de 6 ans et encore moins pour les moins de 3 ans, de façon dans des grandes cohortes longitudinales. Elles montrent soit un avis de précaution, voire négatif. Et après, il faut se remettre dans la vraie vie. Effectivement, se retrouver en vidéo avec la famille et la grand-mère éloignée, c'est une très bonne chose. Et évidemment qu'on ne va pas l'empêcher, que ce n'est pas un souci. Et regarder un tchoupi sur les genoux de son papa en discutant et en échangeant pendant 5 minutes, on n'en est pas là, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a une captation de l'attention de l'enfant par tous les systèmes qui sont donnés par YouTube Kids et autres. Et ça, c'est la vraie vie de tous les jours et des parents qui nous écoutent.
C'est vrai qu'il suffit de prendre le train et de voir des enfants de moins de 3 ans qui, pendant 3 heures, 4 heures, sont devant un écran. Tout ça pour la tranquillité des parents. C'est pas pour le bien-être de l'enfant, c'est pour la tranquillité des parents.
Ou la tranquillité des autres voyageurs.
Et des autres voyageurs aussi, oui. Et pour la tranquillité des autres voyageurs. Bien, mais je veux bien... Bon, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le danger des écrans à moins de 3 ans. Vous pensez qu'il n'est pas total, ce danger, vous dites...
Mais parce qu'on n'a pas parlé depuis le début de la façon dont c'est utilisé dans les familles.
Bien sûr.
Ça commence à la maternité. Ça commence à la maternité et il y a un autre souci majeur qui a un impact très important chez les enfants et ils en parlent dans le rapport, c'est la technoférence. C'est-à-dire l'utilisation de l'écran par le parent ou l'adulte qui est responsable de l'enfant, qui n'est donc plus disponible pour son enfant de façon riche et correcte. Et donc il ne peut plus échanger avec son enfant de façon adaptée. Et le langage s'installe de cette façon-là dans les familles. C'est en regardant son bébé, en lui parlant et en étant disponible que les choses vont bien se passer.
Vous êtes d'accord ?
En fait, la problématique des écrans, pour moi, on ne peut la comprendre que si on la pense dans un environnement qui est multifactoriel. Le développement du langage des enfants, moi j'ai travaillé dessus pendant des années parce que je trouve ça magnifique, c'est vraiment incroyable. Ça commence un mois à la naissance et ça repose sur plein de facteurs, notamment l'interaction entre le parent et son enfant, aussi les professionnels que l'enfant va rencontrer. Mmh. Et les enfants ne naissent pas tous égaux dans les mêmes familles, on n'a pas le même type de stimulation.
Bien sûr.
Voilà, donc les problématiques des écrans, quand on regarde dans la littérature scientifique, tous les enfants ne sont pas concernés. Hein, les surexpositions, on les voit entre 5 à 10% de la population, hein, à plus de 2 heures, 3 heures. Ça, c'est les chiffres de l'INSERM de 2021. Et donc, du coup, quand on parle de surexposition, il n'y a pas tous les enfants. Déjà, c'est la première chose. Et quand on regarde qui sont ces enfants, on voit bien que ce sont dans des populations vulnérables. Des familles isolées, des familles monoparentales.
Ce n'est plus vrai. Je suis désolée.
Pas forcément.
Ça, c'est les chiffres de la recherche. Hein. Je n'invente rien. Moi, je me pose toujours sur des faits. Et donc, du coup, rapport à ça, en fait, c'est toujours important de pouvoir repartir un petit peu, de dire finalement, si on fait des politiques publiques ciblées sur les écrans, regardons qui on doit cibler, qui sont concernés par cette question et comment aider ces parents.
Politiques ciblées, comment empêcher tout usage des écrans pour des enfants de moins de 3 ans? Comment
éduquer les parents et informer surtout les parents. Parce qu'on les critique beaucoup les parents, mais on les a pas informés de façon correcte et assez précoce. Encore une fois, à la maternité, et après ça doit être pris en charge par tous les intervenants autour de l'enfant, que ce soit les médecins, les pédiatres, pour informer, pour dire voilà, si c'est utilisé de telle façon, ça se passera bien. Alors attention, on a parlé de familles vulnérables, on est toujours en train de stigmatiser quand même ces familles. Moi je suis désolée, depuis le Covid, depuis cette période difficile, très clairement, dans ma consultation, je vois des enfants tout venant et d'origine extrêmement variée. Le télétravail a aggravé beaucoup les choses également. Et donc, ce qui est une tendance liée au Covid et ce qui fait qu'on se retrouve avec des familles de tous les niveaux socio-économiques. Les choses sont en train de changer également dans les études.
Alors, que recommandent encore ces experts? Un accès fortement limité entre 3 et 6 ans avec des contenus de qualité éducative et accompagnés par un adulte. Vous êtes d'accord?
Moi, je pense que... par rapport à l'utilisation des écrans, comme l'a dit, comme vous l'avez très bien dit, pour moi, l'arme la plus puissante, c'est l'éducation, la formation, pouvoir comprendre que ces outils sont des opportunités et il y a des risques. On doit évidemment protéger les enfants d'un certain nombre de choses, de contenus qui ne sont pas adaptés à leur âge, comme on l'a fait pour les livres.
Mais c'est le rôle des parents de protéger
les
enfants.
On a le rôle des parents, mais il faut, moi, ce que je trouve assez difficile dans cette question des écrans, c'est qu'on fait reposer la responsabilité uniquement sur les parents, mais tout le monde est concerné. L'État est concerné, ses plateformes sont concernées, nos politiques publiques de la petite enfance et d'autres politiques éducatives sont concernées, tout le monde est concerné.
Mais il n'y a pas d'écran dans les crèches. C'est ce que il n'y a pas d'écran dans les écoles maternelles. Malheureusement,
alors,
si,
à certains endroits, il y en a.
Est-ce qu'il y en a trop?
Oui, il y en a trop, mais déjà, il faut protéger les crèches, il faut protéger les assistantes maternelles, et c'est dit dans le rapport. Et justement, le rapport de la commission dit qu'on a mis trop de responsabilités sur les parents et qu'il faut d'abord les informer, effectivement, de façon honnête et très précoce. Et bien sûr qu'il faut protéger le 3-6 ans, qui est aussi dans une période où il doit apprendre énormément de choses. Alors, bien sûr que ça dépend des contenus. Le problème, c'est que quand vous vous retrouvez sur YouTube ou autre, vous pouvez tomber sur n'importe quel contenu. Et donc, il y a des contenus tout à fait inadaptés. Il faut savoir aussi, un truc important, on parle beaucoup d'éducatif, on parle beaucoup de pédagogie, on parle d'applications pédagogiques par exemple. Aucune n'a montré sa valeur pédagogique. Une existe, qui a existé, qui s'appelle Sesame Street, où il y avait des gens sérieux qui ont travaillé sur le sujet et qui ont donné aux enfants des formes éducative et travaillée par des professionnels, actuellement ce n'est pas le cas. Donc apprendre l'alphabet à 3 ans, c'est juste le répéter et ce n'est pas pédagogique ni éducatif. Arrêtons de mettre les enfants sur ce genre de choses, ils apprennent beaucoup mieux dans les yeux de leurs parents.
Alors, par rapport à ça, il y a quand même un certain nombre de recherches qui ont montré des effets de certains outils pédagogiques utilisés par le numérique, qui ont fait leurs preuves, qui sont même évalués par des laboratoires, notamment sur l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage des mathématiques, qui ont fait leurs preuves à la suite de ce qu'on appelle, nous, des essais randomisés contrôlés qui nous permettent d'évaluer l'efficacité d'une pédagogie. Donc, le numérique, encore une fois, c'est un outil au service de notre pédagogie, au service de nos enfants. Évidemment, c'est quand on regarde, si on prend du recul, ça fait pas si longtemps, en fait, que ces tablettes, ces téléphones sont rentrés entre nos mains. Quand on prend du recul, on est toujours en train de faire des essais, des erreurs. Qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas ?
Faut-il mettre entre les mains des enfants, entre 3 et 6 ans, des tablettes ?
On est avec un adulte responsable, disponible, qui lui-même n'est pas avec son écran dans la main et donc non disponible, et que le contenu est de qualité et qu'il y a un début, un milieu, une fin, et que ce n'est pas le processus justement de la captologie où ça ne s'arrête jamais, pourquoi pas ? Mais en fait, un enfant, il a beaucoup plus besoin de sortir, d'échanger, de faire le quotidien avec ses parents, et c'est comme ça qu'il va apprendre. Vraiment, c'est des notions importantes. Alors, je reviens sur les applications que vous nommez. Il s'agit d'applications dans les laboratoires. Et pour l'instant, il y en a pas qui sont accessibles aux parents tout venant. Il ne faut pas l'oublier. Parce que sinon, après, il y a une confusion dans ce qui est dit et qu'on va chercher dans un petit coin une application qui serait peut-être pédagogique pour mon enfant et qui me remplacerait et qui ferait mieux que moi. Non, les parents font mieux que toutes les applications existantes.
Bien. Nous allons parler des 11 ans maintenant. Juste après la pub, pour les téléphones portables, la commission préconise l'interdiction jusqu'à 11 ans. A tout de suite.
Écoutez Sud Radio Le Havre en DAB+.
Sud Radio. Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit. Verisure présente.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Les écrans et les jeunes. La commission qui a travaillé sur ce sujet, sur l'hyperconnexion subie des enfants, préconise l'interdiction de téléphone portable jusqu'à 11 ans. Vous êtes d'accord ou pas, Nawal Abou?
Alors, moi, personnellement, mon avis, c'est surtout la prévention, l'éducation, la formation. Donc, l'interdiction stricto sensu, pour moi, c'est toujours une erreur.
En fait, la commission dit aux parents, ne donnez pas de téléphone portable avant l'âge de 11 ans.
En fait, c'est ce
que la commission dit.
À mes yeux, le numérique fait partie de nos vies. Le numérique fait partie de nos vies, font déjà partie de la vie de nos enfants, vont être dans leur futur métier. Donc pour moi, si on interdit quelque chose qui va être dont on a besoin plus tard, pour moi c'est une erreur. Je pense que c'est dès lors que justement on a ça dans les mains, il faut leur apprendre. Qu'est-ce qui est justement une opportunité dans ce type de téléphone ? L'accès à cette information-là, par exemple. Moi, je me souviens à mon époque, on regardait dans les encyclopédies, on allait dans les bibliothèques, on regardait. Ouais. Maintenant, l'information est à portée de nos doigts. C'est assez incroyable. D'ailleurs, elle est gratuite.
Quelle information, attention.
Voilà. Et donc du coup, justement. c'est justement ça la question de la pédagogie. Comment on indique à nos enfants quel type de source ils doivent aller chercher par rapport à ça? Comme on a appris à aller chercher cette encyclopédie versus une autre.
Quand l'enfant est seul, pardon Nawal Aboum, mais quand l'enfant est seul?
Eh bien la pédagogie c'est justement prendre par la main jusqu'à ce qu'il soit seul et être autonome pour pouvoir être responsable de pouvoir faire leur choix.
Souvent il a un téléphone portable avant 11 ans, il l'utilise seul ce téléphone portable.
Oui. Et bien quand on met ces téléphones dans les mains des enfants, justement on les accompagne, on leur explique comment s'en servir.
Il faut donner, on peut donner un téléphone portable à partir de quel âge?
Bah, écoutez, du moment qu'on en a besoin pour faire quelque chose de précis, notamment par exemple, quand on est au collège, on doit avoir accès à certaines applications pour par exemple les pronotes ou ce genre de choses où il y a justement des informations qui sont en ligne pour son agenda, ses devoirs, etc. Donc quand c'est utile, on en a besoin. Donc,
en pourquoi fait, c'est l'éducation nationale qui encourage, l'usage du téléphone.
D'ailleurs, c'est soulevé par la commission. Il y a un problème d'ailleurs, et comme a dit M. Attal, balayons devant sa porte pour l'éducation nationale. Il y a quand même un souci. Effectivement, l'accès à l'Internet et le fait que les enfants soient obligés d'aller sur Pronote à n'importe quelle heure, ainsi de suite. Donc d'ailleurs, la commission propose que ça soit cadré. Mais je répète, un enfant, il a besoin d'être en contact avec ses parents quand il sort. C'est d'ailleurs pour ça que ça arrive au collège. Donnons-lui un téléphone. Je rappelle, un téléphone, ça sert à téléphoner avec la possibilité de faire des SMS. L'accès à Internet doit être encadré, comme vous l'avez dit.
Un téléphone sans accès à Internet.
Mais c'est ce que propose la commission à juste titre, parce que dans la commission, il y a des gens qui voient des enfants et des adolescents en grande souffrance. Et bien sûr que l'enfant va accéder à l'Internet à la maison, en compagnie d'un parent, d'un adulte disponible et avec un temps dédié et pas dans sa chambre tout seul où il va se retrouver sur un site pornographique ou sur des sites violents et qu'il n'y aura aucun filtre.
Donc jusqu'à présent, un téléphone sans Internet, c'est... Voire 15 ans. Oui. Vous faites la même recommandation, Nawal Aboum?
Moi, personnellement, je suis contre l'interdiction. Ça, c'est mon point de vue. Je le défends depuis déjà 10 ans. Mais par contre, moi, ce que j'ai vraiment envie de souligner, c'est vrai que c'est très important. Il faut être très, très vigilant sur l'accès à Internet. Et surtout, c'est les réseaux sociaux, quand même. Parce que c'est finalement qui fait le plus peur à nos enfants. Puisque les réseaux sociaux.
Un smartphone sans accès aux réseaux sociaux après 13 ans. Parce que jusqu'à 15 ans. C'est ce que recommande la commission.
Et recommande des réseaux sociaux éthiques. Alors là, il y a un gros boulot à faire, évidemment. Mais attendons. L'Europe va probablement bouger avec le DSA et le DMA. Qui sont quand même un système qui va nous permettre peut-être d'obtenir les algorithmes des réseaux sociaux, savoir les réguler, pour pouvoir protéger au mieux justement les enfants. On leur met un objet addictif par nature, ou quand vous retrouvez sur TikTok, avec la spirale de TikTok, lisez Amnesty International, vous allez voir ce qui se passe. Et moi, je les vois, ces enfants. Quand on est dans un laboratoire, on fait des tas de choses merveilleuses, mais moi, je suis au contact des familles, au contact des parents qui sont en détresse avec leurs adolescents, qui vont mal, parce qu'ils se retrouvent totalement influencés dans les réseaux sociaux ou qui passent des heures, des nuits sur les jeux vidéo et qui ne dorment plus. S'il y a une chose sur laquelle on a tous été d'accord, je pense, et la commission le dit, c'est sur le sommeil. Et quand vous touchez le sommeil en qualité, en quantité, les adultes aussi, mais les ados aussi, eh bien vous allez mal sur plein de sujets.
C'est leur problème, ils sont responsables de leur vie. Ils font ce qu'ils veulent. Et malheureusement, c'est mauvais pour eux, mais bon. Mais ce qui est plus grave, ce sont les enfants.
Absolument.
Les enfants.
Et les adolescents.
À vos yeux.
À mes yeux, il faut faire attention à ne pas mettre l'écran égal danger. Ça, pour moi, c'est une erreur qu'on peut faire dans la prévention et l'information.
Oui, parce que les réseaux sociaux. Si on ne dit pas à l'enfant que c'est dangereux.
Alors, il y a des écrans. On fait
il y a des opportunités et puis il y a des limites. Ces limites-là, évidemment, on est tous face, on sait qu'il y a des dangers, il faut les prévenir, il faut leur dire justement que leurs images peuvent être utilisées, etc.
Mais il y a des opportunités sur TikTok. Les copines, ils oublient le danger.
Mais en même temps, sur les réseaux sociaux, moi je les entends, parce que moi je suis enseignante, je suis au contact, je suis chercheuse de formation, mais je suis également praticienne de terrain, je les entends, ils développent des choses incroyables sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a des mouvements qui se créent, il y a une communauté qui se crée. Même se dire qu'il y a des effets, moi je les vois, ils sont soutenus pendant le Covid grâce à ça. Justement avoir des accès à des choses à distanciel. Enfin, ça a été vraiment un outil incroyable. Quand bien même on a des risques sur lesquels, évidemment, il faut les prévenir. Mais on est tous, j'ai envie de dire, vous savez, on parle toujours des ados parce qu'on a peur pour eux, ces populations vulnérables, etc. Mais ils sont plus intelligents que ce qu'on imagine. Quand on leur explique un certain nombre de choses, ils sont en mesure de pouvoir prendre leurs responsabilités et de pouvoir aussi comprendre que ça, c'est dangereux.
Je pense qu'ils ont besoin besoin des outils sociaux, ça s'apprend
comme nous, on l'apprend tous les jours au quotidien. Parce que même nous, on est face à ça.
Protégés et informés. C'est important qu'ils soient protégés. Et ils ne le sont pas actuellement. Ils se retrouvent, je répète, la spirale TikTok, il n'y a aucune protection. Ces jeunes filles qui se scarifient, ces jeunes filles qui ne supportent pas leur corps, qui sont soumises à ces filtres et qui se retrouvent avec des troubles du comportement alimentaire, il faut les voir. Bien sûr qu'il y en a qui vont très bien. Et comme dans toute situation, il y a des groupes d'ados suffisamment cadrés, suffisamment aidés, suffisamment informés auprès de leurs parents, d'autres adultes, pour aller bien. Mais malheureusement, la plupart se retrouvent dans leur chambre, tout seuls, face à cet écran, face à ces réseaux sociaux, ces jeux vidéo, à la pornographie, et ça commence à 8 ans, à 9 ans. Donc il y a bien un problème. Il faut bien les protéger. Il faut bien les informer. Et ce n'est pas vrai de dire que le parent va être là, à côté.
Est-ce que les informer, c'est suffisant?
Pour moi, c'est l'arme la plus puissante qu'on a en prévention. Et c'est d'ailleurs tout ce qui a, c'est ce qui a fait preuve, et c'est ce qui fait preuve. Culpabiliser ne sert à rien.
Mais on n'est pas en train de culpabiliser.
On n'a aucune preuve, même d'ailleurs, c'est dans les preuves scientifiques qu'on peut avoir, on sait que la prévention, ce sont de temps long. Quand on regarde ce qu'on a fait par rapport au tabac, par rapport à l'alcool, par rapport à plein de choses, on a vu qu'il a fallu des années pour mettre en place des choses, pour que les gens puissent s'approprier
un certain nombre de choses.
C'est ce qu'on dit sur les écrans.
Vous n'imaginez plus actuellement avoir un bébé dans les bras avec une cigarette.
Et l'alcool, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des interdits pour les écrans?
Auparavant, on n'avait pas le droit d'acheter un Playboy ou autre, je vous rappelle, il y a 20 ans, et tout le monde était incriminé si c'était le cas. Pourquoi maintenant il peut aller sur un site porno autant qu'il veut? À n'importe quel moment, on dit qu'il a plus de 18 ans. N'importe quel gamin va appuyer en disant qu'il a plus de 18 ans.
C'est pourquoi la question des écrans, elle doit être une responsabilité de tous. Et on doit évidemment légiférer sur un certain nombre de sujets pour protéger.
Donc il faut légiférer.
Ça dépend de quel point de vue on se trouve. Là, depuis tout à l'heure, notre situation, on est au niveau des parents.
Comment faites-vous pour prévenir? Pour prévenir la pornographie sur écran, la vision de sites pornographiques chez les jeunes. Comment faites-vous sans interdiction?
On parle de viol psychologique, c'est ce qui se passe quand ils voient le porno actuel auquel ils ont accès.
Eh bien, on informe. Du côté des parents, pour qu'ils puissent s'en saisir, des enfants. Vous savez, en réalité, cette question-là, c'est pas juste l'écran. Là, on parle d'un problème plus sociétal. On parle de justement finalement comment ces outils ont transformé nos vies, comment le numérique est en train de remettre en question des choses, etc. Et on voit que ça avance. Enfin, je veux dire, la France a été très stricte sur plein de sujets où d'autres pays n'ont pas du tout eu le même type de choses.
Donc,
on avance sur un certain nombre de sujets et on regarde qu'est-ce qui est bien pour nos enfants, qu'est-ce qui l'est pas. On a bien vu que TikTok, Facebook se retrouve maintenant au pied du mur sur un certain nombre de sujets, donc on voit qu'on avance au fur et à mesure, parce que tout le monde est concerné, eux aussi doivent prendre leurs responsabilités sur la modération, etc. Donc c'est ce qui est en train de se passer, donc
il faut pas dire que ça se passe rien non plus. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, je sais, mais est-ce qu'il faut aller plus loin dans la réglementation pour interdire l'accès à la pornographie aux mineurs? Moi je pose la question.
Mais bien sûr, mais c'est ce que dit d'ailleurs la commission, et la commission s'en saisit, et pas que de ça d'ailleurs. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, il se passe aussi des choses qui sont absolument... regardez TikTok, en quelques heures, vous vous retrouvez dans une spirale où vous avez un fil qui vous conduit à faire des choses qui sont tout à fait inadaptées, avec des enfants qui se retrouvent avec des idées mortifères. Enfin, vraiment, c'est absolument horrible. Alors, s'ils sont informés par leurs parents, s'il y a une discussion, mais en fait, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Les gamins se retrouvent avec leur smartphone tout seuls. Il n'y a plus d'autres adultes autour pour les aider, pour leur expliquer ce qui se passe. Et je pense qu'on a un énorme travail à faire.
Et puis ils s'échangent des images. Puis ils s'échangent des conseils pour détourner la loi ou pour aller sur un site particulier.
C'est pour ça que le contrôle parental ne suffit pas, puisqu'ils savent très bien le détourner.
Alors, comment fait-on?
Eh bien, la première chose, on les prévient la nuit. On dit aux parents. Il n'y a pas d'écran dans la chambre.
D'abord,
il n'y a
pas d'accès. On supprime le téléphone la nuit. Je vous le dis tout de suite.
Absolument. Et l'adulte est un exemple. Et le parent doit être aussi un exemple dans ça. Donc ça, c'est important. Dès le début, que faites-vous, parents? Dans les 10 clés dans mon livre, c'est la première chose que je dis. Et vous, parents, comment utilisez-vous votre écran pour être un exemple? L'enfant fait ce que fait le parent et non pas ce qu'il dit. Et ça, c'est la première chose. Préservons le sommeil. Pas d'écran dans les chambres. C'est indispensable pour les petits comme pour les grands et les adolescents, bien sûr. Le sommeil.
Moi, je reste sur mon idée de, évidemment, il faut prévenir les enfants. Évidemment, il faut leur dire qu'il y a énormément de risques. Évidemment, qu'il faut légiférer pour protéger les enfants.
Enfin, ça, c'est évident.
On reviendra jamais là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, dans le pratique, comment on fait? Puisque ce n'est toujours
pas. Comment on fait? On légifère. On enlève le téléphone à l'enfant le soir. Non.
On lui explique et on n'a pas de Wi-Fi dans la chambre.
On met des limites.
Ça me paraît pas très compliqué.
Non, mais on a toujours mis des limites aux enfants pour leur expliquer. Enfin, c'est ça l'éducation. L'éducation, c'est mettre des limites, c'est comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire.
Dans le numérique, il faut donner des limites également.
On l'a fait avec comment on s'adresse à nos cousins, à nos cousines, à nos profs. C'est ça l'éducation. C'est répéter, répéter, répéter. Oui, c'est fatigant. Oui, c'est difficile. Oui, il n'y a pas plus difficile que l'éducation.
Oui, mais
il n'y a que comme ça qu'on y arrivera.
Mais faut pas être équivoque sur les sujets et ne pas dire un jour ah oui c'est chouette, c'est pédagogique ou éducatif, ou alors ça peut apprendre des tas de choses. Non, il faut aussi tout d'abord mettre la protection de l'enfant en avant. C'est ce que le collectif Surexposition Écran fait depuis déjà 2017.
Bien, merci à toutes les deux. C'était passionnant. Hein. C'est passionnant comme sujet, évidemment. Nawal Aboub est docteur en sciences cognitives, auteur de La puissance des bébés chez Fayard. Et Sylvie Duosica, pédiatre, est l'auteur de Les écrans, 10 clés pour les utiliser en famille de manière raisonnée aux éditions Attier. Merci à toutes les deux. Dans un instant, nous sommes avec Valérie Expert et Gilles Gansman.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.
Avec Verisure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur verisure.fr pour votre demande de devis gratuit.
Sud Radio H.
102.
Sud Radio.
Passer la folie des grandeurs, l'envie de jouer les grands seigneurs. Passer l'ivresse, passer l'ardeur, quand les fruits n'ont plus de saveur. Revenu de 7 ans de malheur, d'un accouchement dans la douleur. Lassé de mentir et faire l'acteur, quand on n'est plus à la hauteur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère, une petite sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. La main sur le cœur, plus fort que d'être le meilleur. Perdu dans le collimateur, qu'on soit soldat ou déserteur. Des candies gravés dans le cœur, des milliers d'heures de vol au compteur. Des beaux discours, des beaux parleurs, qu'on soit dans le flou ou dans l'erreur. Restent les murs porteurs des amis en béton, un frère ou une grande sœur, pour voir à l'horizon. Restent les murs porteurs pour tenir la maison, pour surmonter ses peurs ou vaincre ses démons. De jouer les durs, les cascadeurs, des souvenirs hauts en couleur. De l'utopie, d'un monde meilleur, de tout ce qu'on a appris par cœur. Restent les murs porteurs pour se couper du vent, pour tenir la longueur, faire face aux tremblements. Restent les murs porteurs pour s'abriter du froid, pour conjurer le malheur et retrouver sa voix.